tranches de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranches de vie, vous avez peut-être entendu à la radio ces jours-ci que une enquête très sérieuse de l'IFOP, de l'Institut français d'opinion publique, avait révélé à la fin de 2018 que 18% des Français étaient tatoués. 18%. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 16% des hommes, mais 20% des femmes sont tatoués. Or, en 2010, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, une décennie à peine, il y avait seulement 10% de Français tatoués. Ces pourcentages nous donnent une idée de l'évolution de ce qui est, quoi, une mode, mais on ne peut pas parler de mode étant donné que le tatouage est presque aussi ancien que l'humanité. Et ce qui est surprenant, c'est évidemment aussi la multiplication des femmes tatouées. Mais là aussi, des femmes tatouées, il y en a eu depuis les débuts de l'humanité. Eh bien, c'est ce problème du tatouage, les motivations du tatouage, l'histoire aussi du tatouage, l'avenir du tatouage, que nous allons explorer. Et je remercie particulièrement nos invités d'aujourd'hui d'avoir répondu à cette invitation, Martine, Céline et Elisa, avec qui nous allons échanger sur le tatouage au féminin. Martine, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez, comme tout le monde, est-ce que pour vous, le tatouage a une histoire ?
Oui, pour moi, le tatouage a une histoire, les miens en particulier, puisque le premier a été fait au décès d'un proche. J'y tenais particulièrement, donc c'est un petit cœur avec des ailes. C'était mon premier tatouage. J'étais pas toute jeune quand je l'ai fait, sauf que j'avais envie d'avoir un tatouage depuis très très longtemps. 14 ans, 15 ans, et c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Mes parents n'étaient pas d'accord, bien évidemment, donc je ne l'ai pas fait. Donc c'était mon premier tatouage. Le deuxième, également, au décès d'un proche, encore plus proche, puisque c'était mon fils aîné. Donc j'ai voulu avoir sa guitare. C'était mon deuxième tatouage. C'est important pour moi, et c'est vrai que le regard des gens et de certaines femmes, les réflexions que j'ai eues, c'était vulgaire, c'était pas très joli, pas esthétique. En fait, je trouve que la vulgarité, elle est pas dans le tatouage, elle est bien ailleurs.
La manière dont on peut...
Voilà, tout à fait.
Martine, merci beaucoup alors pour ce témoignage, qui nous amène à donner une première définition du tatouage, des motivations du tatouage. Le tatouage, c'est un hommage. C'est un hommage et c'est une manière de conjurer la mort. Et c'est ce qui fait cette qualité du tatouage, c'est sa permanence. Et ce qui a attiré les hommes probablement depuis les débuts du tatouage, c'est justement le fait que c'était quelque chose normalement qui était indélébile et qui traversait le temps. Céline. Votre histoire du rapport avec le tatouage ?
Mon histoire personnelle ?
Bien sûr.
Mon premier tatouage ?
Si vous voulez, mais vous intervenez, je le rappelle à nos auditeurs, ou plutôt je vais l'indiquer à nos auditeurs, c'est que nous avons la chance d'avoir quelqu'un à la fois qui peut témoigner de l'utilisation du tatouage au féminin, mais qui est également une praticienne du tatouage.
Tout à fait. Je vais faire comme... Martine, mon premier tatouage, je l'ai fait, j'avais 20 ans. Bien évidemment, papa, maman, pas d'accord. Et mon premier fut un home, le symbole home, qui pour moi était important. Et j'avais cette nécessité, ce besoin de le faire.
Pourquoi ?
Il me correspondait. Dans tout ce qu'il exprime, tout ce que ce symbole représente pour moi, c'est une partie de moi et j'avais besoin de l'exprimer sur mon corps. Donc après, ça a continué. Il s'est écoulé quelques années avant que je devienne praticienne et que je me lance dans l'action de tatouer les autres. Et c'est C'est quelque chose qui m'est un peu tombé dessus, parce qu'à mes débuts, je dessinais, juste pour moi, je suis complètement autodidacte. Et j'ai eu la chance d'avoir un tatoueur dans ma famille, qui, une fois a vu mes dessins, m'a dit, mais pourquoi tu n'as jamais pensé à faire ça? J'ai répondu, pourquoi pas? Et petit à petit, j'ai fait mon chemin et je suis ravie de pouvoir exercer cette profession qui pour moi n'en est pas vraiment une parce que c'est une passion également. Et ce que je trouve de vraiment génial, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, c'est de pouvoir aider les gens à exprimer ce qu'ils ont, ce qu'ils ressentent.
Ce qu'ils attendent.
Ce qu'ils attendent. Pouvoir mettre sur papier ce qu'ils ont en tête. Même s'ils arrivent juste avec une idée ou plusieurs, on arrive à faire un mix, à les aider dans les démarches, justement, pour exprimer, pour mettre à plat sur papier, et ensuite pouvoir le créer sur une partie de leur corps, pour qu'ils le gardent à vie. Ça, c'est...
Alors, quand vous dites autodidacte, comme vous avez été quand même initié par un praticien,
bien sûr.
Vous voulez dire que vous proposez des motifs ou vous étudiez avec vos clients des motifs qui sont des motifs originaux.
Tout à fait.
C'est-à-dire que vous n'allez pas reprendre des motifs qui ont cours et qui sont proposés quelquefois dans les salons de tatouage et qui sont des choses qu'on peut dire un petit peu bateau.
Tout à fait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les tatous flash.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, voilà. Les tatous passent partout.
Je me suis armé d'un glossaire, et là, je vois, alors, le flash, c'est un motif de tatouage prêt-à-porter que l'on trouve en général sur une planche de motifs.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait. C'est exact. Alors ça, bien sûr, il y a des gens qui arrivent, qui veulent un tatou, qui ne savent pas quoi spécialement, ou ils ont craqué sur quelque chose. Et ils choisissent justement sur une planche qu'on appelle tattoo flash. Mais moi, je préfère créer une histoire. À partir d'une histoire, créer un tattoo, pardon. Et mettre à plat un dessin vraiment personnel et unique.
Alors, on va revenir sur les motifs et sur les techniques.
Oui.
Mais on va demander maintenant, si vous voulez bien, à Elisa nous apporter son témoignage de jeune femme tatouée.
La question, c'est mon premier tatouage, du coup ?
Oui, c'est la question.
Alors, mon premier tatouage, c'est une phrase que j'ai fait sur mon bras gauche à ma majorité, il me semble. Je venais d'avoir 18 ans. Je me suis fait tatouer le titre d'une chanson de Bob Marley. C'est No Woman, No Cry. Et je pense que c'est la phrase qui me représente le plus de tous les tatouages que j'ai sur moi, même si c'est le plus vieux. Pour moi, c'est un peu... J'ai eu beaucoup de dépendance dans ma vie et quand j'ai commencé le tatouage, j'en ai devenu vraiment une parce que j'avais l'impression que sur mon corps, je pouvais faire une thérapie et ça m'a beaucoup aidé à m'accepter plus moi déjà, accepter plus mon corps, voilà. Je pense que c'est vraiment une thérapie et du coup j'ai continué parce que c'est vraiment très très addictif et j'aime beaucoup ce côté, je me fais tatouer que des choses qui sont en rapport avec ma vie. Ça se voit pas forcément au premier abord mais moi je le sais et c'est tout ce qui m'importe. Sachant que ma mère n'était pas tatouée. Mon père non plus, enfin vraiment c'était un petit peu tabou tout ça chez moi. Peut-être que c'est ça qui m'a poussé encore plus à aller voir, mais c'est vraiment un monde qui me plaît beaucoup.
Merci Elisa, on va revenir bientôt sur tes autres tatouages, mais on vient de toucher là, avec ce que tu as évoqué, une autre manière d'aborder le tatouage, à savoir le tatouage comme affirmation de soi et puis affirmation à la fois de son indépendance et puis de sa volonté de liberté. Et alors, tu as continué, tu continues
Oui, je continue, je continue toujours. J'ai beaucoup d'hommages sur moi, en fait. J'ai fait pour mon papa qui est décédé, du coup, j'ai fait en rapport avec ma famille parce que c'est vraiment ce qui m'a toujours motivée, même si j'en étais pas forcément consciente, mais c'est vraiment... Enfin, voilà, je continuerai.
C'est addictif.
C'est addictif, exactement.
Alors justement, ça c'est aussi un aspect tout à fait étrange du tatouage, à savoir que quand on a commencé, après on a du mal à s'arrêter.
Tout à fait, c'est chimique, ça vient du corps humain.
Mais dans les formes extrêmes de tatouage, de ce qu'on appelle full body, hein, je crois, savoir on a un tatouage corporel complet jusqu'au poignet, et qui est particulièrement illustré par le tatouage japonais, ça peut prendre des années.
Oui.
Ça peut prendre jusqu'à 10 ans.
Voire plus.
Et plus ?
Voire plus, oui.
Et alors, à quoi ça correspond, ça ? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de place ?
Je ne suis pas dans le cas-là. J'ai encore de la place. Je fais partie des personnes, à l'âge que j'ai, je prends mon temps. J'ai envie, à 80 ans, si je veux avoir un autre tatou, de pouvoir me faire un autre tatou, d'avoir encore de la place.
Ah oui, parce qu'il y a la pratique. Alors là, je vois dans le lexique dont je me suis muni, il y a la pratique du cover ou du cover-up, hein, qui consiste à couvrir...
Les ratés.
Un tatouage ancien par quelque chose de nouveau et à convertir...
Oui, ancien ou raté.
À convertir un petit cœur en dragon ou inversement.
Tout à fait. J'ai moi-même des covers, ce que vous appelez des covers. Oui. J'ai fait recouvrir des anciens que je ne vous souhaitais plus.
Et moi aussi, du coup.
Voilà.
Un seul. Mais...
Moi aussi. Voilà. Trois. Ah. Trois, pardon. trois.
Alors, on va revenir vers Martine. Martine, vous, est-ce que vous avez été frappée aussi par l'addiction et est-ce que vous avez continué ou est-ce que vous avez envie de continuer ou bien... Si vous ne continuez pas, qu'est-ce qui vous motive en ne continuant pas ?
Alors, pour l'instant, j'en ai deux. J'ai envie d'un troisième, qui est très particulier. Je suis mamie, j'ai quatre petits-enfants. Et j'ai envie d'avoir... Alors là, je ne trouve pas exactement ce que je voudrais. En fait, je voudrais un bracelet avec les initiales de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais je veux pas n'importe quoi. Je veux pas que ce soit gros, je veux pas que ça soit trop fin. Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal. Ça fait déjà 2-3 ans que ça me travaille. Ça prendra peut-être encore 2-3 ans ou plus. Ou peut-être que dans l'année, ça va venir. Mais j'ai quelque chose... Et moi, c'est toujours très, très lié à la famille.
Donc la porte n'est pas fermée ?
Du tout. Elle est grande ouverte.
Et là, l'hommage et l'attachement à la famille comme motivation, c'est quelque chose aussi qui...
De très fort.
Paraît, qui est très fort et qui est une motivation récurrente dans le tatouage.
Oui, je confirme. Oui.
Qu'il s'agisse des tatouages complètement artisanaux, faits par des détenus ou des gens dans des situations très particulières, et qui expriment comme ça leur attachement et leur envie de rejoindre leur famille, ou qu'il s'agisse de formes plus élaborées.
Quelque part, c'est une façon de les avoir toujours avec soi.
Voilà. Donc, vous avez, oui, qu'ils soient vivants ou disparus.
Tout à fait.
Mais vous avez abordé quelque chose, Martine, qui est intéressant, en disant « je veux que ça soit fin, je veux pas que ça soit trop gros », etc. Donc tout ça, ça pose aussi le problème de la technique. Alors,
voilà.
Est-ce que Céline peut nous dire un petit peu quels sont maintenant le dernier mot de la technique, puisque bon, je vais faire un petit peu d'histoire en rappelant que bon, tout le monde sait que les tatoueurs traditionnels travaillent avec des aiguilles, avec des petits râteaux comme les Polynésiens sur lesquels on frappe tout doucement, mais que les choses ont beaucoup changé depuis qu'un Américain d'origine irlandaise nommé O'Reilly a inventé le dermographe en 1891. Alors, ces dermographes, qu'est-ce qu'ils vous permettent exactement ? Est-ce qu'il y a des progrès dans le matériel de tatouage ? Et quel est le dernier mot de la technique ?
Dernier mot de la technique, les machines sont de plus en plus perfectionnées. Après, le tatoueur choisit sa machine en fonction du travail qu'il fait, de ce qu'on veut réaliser. Moi, je pratique toujours avec des machines anciennes, entre guillemets, ce qu'on appelle des machines à bobine. Actuellement, on a des machines rotatives.
Oui, la bobine est rotative, oui. Ça, j'ai vu ça, oui.
Et donc, je préfère travailler avec des machines à bobine. Ça, c'est personnel.
Et pourquoi ? Parce que là, on est là pour s'instruire. Hein.
On est là pour s'instruire.
Pourquoi à bobine ?
Je trouve que j'ai une meilleure sensation au niveau de la peau quand je tatoue la personne. J'ai plus cette prolongation de ma main via la machine et via l'aiguille. Je ressens plus, c'est difficile à expliquer, je ressens plus vraiment mon travail effectué sur la peau. C'est quelqu'un de vivant. Et le résultat, je le trouve mieux. Bien sûr, avec les rotatives, on fait du travail magnifique. Il n'y a rien à dire. Par exemple, quand on veut faire de l'hyperréalisme, avec les deux machines, on peut le faire. Avec que ce soit une rotative ou une bobine, on peut pratiquer exactement les mêmes choses, que ce soit du portrait, du réalisme, de l'hyperréalisme, du tribal, du maori ou autre. C'est vraiment propre au tatoueur. Il faut qu'on ait un feeling avec cette machine, il faut voir avec laquelle on se sent le mieux pour travailler. Donc c'est propre à chaque tatoueur, en fait.
Alors, vous travaillez avec des machines qui font combien de battements à la seconde ?
Qui font du bruit. Ça va entre 110 et 120.
Ah, ça, oui. Parce que j'ai lu que c'était compris entre 80 et 180, je crois.
Oui, alors là, vous tapez vraiment dans du plus large. Oui. Moi, je reste
Et alors, qu'est-ce que ça signifie en termes de résultats ?
En termes de résultats, ça, c'est des petits secrets. Je ne veux pas non plus dévoiler.
Oui.
Il y a des coups par seconde pour faire des tracés, ce qu'on appelle des lignes. Il y a des coups par seconde pour faire les ombres. Et il y a des coups par seconde pour faire le remplissage. Donc ça, après, on rentre dans le réglage de la machine et en fonction du travail que l'on fait.
Merci quand même de nous avoir révélé quelques secrets. Mais alors, dites-nous aussi quelques mots des couleurs, des pigments, parce que là aussi, on lit des choses.
On
a utilisé toutes sortes de couleurs, toutes sortes de produits pour... du charbon,
charbon en prison, les pneus, voilà, les semelles de chaussures,
les piles, les charbons de piles recyclés.
Tout à fait. Non, maintenant on a des pigments qui sont dits minéraux, qui sont complètement stériles et qui ont un suivi, vraiment aucune inquiétude. Et on fait même à l'heure actuelle des encres véganes.
Ah. Ils sont alors d'origine végétale uniquement.
Tout à fait.
Très bien.
Donc ce qui est quand même bien pour les personnes qui sont véganes dans leur vie de tous les jours et qui veulent un tatouage végan.
Et vous êtes.
J'ai des produits véganes.
Vous êtes capable de proposer cette
bien
gamme
sûr.
De produits à vos
oui,
clients.
Tout à fait. Tout à fait.
Tu savais ça, Elisa ?
Oui. Pour les produits véganes, je savais.
Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe quand vous recevez un client ou une cliente et qui arrive avec une idée déjà de ce qu'elle voudrait avoir ? Ça prend combien de temps, cette prise en main, cette mise en confiance, puis cette étude du motif
Entre le moment où elle franchit la porte et le moment où on va... passer à l'acte du tatouage, peut s'écouler du temps. Parce que, comme Martine l'a dit tout à l'heure, elle réfléchit depuis deux ans et demi, sur son projet. Je pousse énormément les gens à la réflexion, parce que c'est important, c'est à vie. Il faut qu'ils trouvent le bon motif, la bonne personne pour l'exercer. C'est important de trouver le tatoueur qui vous correspond, avec qui vous allez vous entendre, parce que suivant les projets... On peut passer 4 heures ensemble, 6 heures ensemble, donc c'est quand même assez important. Il faut bien regarder le travail qu'il fait, il faut prendre le temps de discuter, il ne faut pas avoir peur de passer les portes, il ne faut pas avoir peur de passer la porte de plusieurs salons, il faut vraiment oser rentrer. On n'a jamais mangé personne jusqu'à présent. Donc, moi j'ai deux types de personnes, en gros. Il y a la personne qui va arriver avec son motif déjà, tout prêt, elle sait par exemple qu'elle veut une rose. Je sors le motif très bateau, mais une rose peut symboliser différentes choses suivant les personnes. Elle sait, mais elle ne sait pas où placer, par exemple, sur son corps. Ils se posent ces questions-là. Donc là, je vais leur demander, est-ce qu'ils ont envie de le voir ? Est-ce qu'ils ne veulent pas le voir du tout ? Donc là, on va déjà commencer à limiter un peu les emplacements. Et petit à petit, au fil de la discussion, on va aussi prendre en compte la douleur. Parce que souvent, si c'est un premier tatouage, c'est « est-ce que ça fait mal ?» Donc effectivement, sur le corps humain, il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses. Après, il y a quand même des personnes qui sont plus ou moins tolérantes à la douleur. Il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est quand on le veut vraiment, la douleur, on passe outre.
Tout à fait.
Alors là, on aborde
encore un autre
aspect, à savoir le tatouage comme rite de passage. Puisque souvent, quand... Il n'y avait que les jeunes hommes qui se faisaient tatouer, ou bien des jeunes femmes dans d'autres cultures que la nôtre. Alors ça paraissait quelque chose, une épreuve presque insurmontable.
Ça reste toujours une épreuve, c'est une appréhension quand on
une manière de prouver son courage.
Oui, c'est vrai. Et quand on va faire son premier tatouage, on a une petite appréhension. Et comme on le disait tout à l'heure, ça devient addictif. Donc une fois qu'on y a goûté, c'est très difficile de s'arrêter. Et comme Martine, les tatouages que vous avez, moi j'appelle ça fait partie des tatouages commémoratifs.
Mmh, oui, très bien.
La personne qui veut un souvenir, par exemple de son papa, j'ai le souvenir d'une dame, elle a tout pris, c'était une nécessité pour elle. Elle avait beaucoup de mal à l'exprimer. Et en fait, on s'aperçoit que ces personnes-là, pour avancer dans leur vie, pour accepter le deuil et continuer à vivre avec eux dans la peau, ils ont besoin de passer par là. Ils ont besoin de trouver ce motif et d'avancer. Et là, on a quand même un travail d'écoute qui est quand même très important. Et entre en compte aussi une communication très, très, très longue, très émotive aussi, où on va discuter et essayer d'entrer dans la tête de la personne et de comprendre la vie qu'a eue cette personne avec le lien de la personne décédée, pour essayer de trouver vraiment le motif qui va lui plaire. Mais je ne veux pas rentrer moi non plus dans le motif de cœur avec des roses, le truc un peu trop cimetière ou pierre tombale, les oiseaux avec le prénom, ça fait vraiment... Après, je respecte le choix de ces personnes-là. Je le comprends, il n'y a pas de problème.
Mais vous arrivez à convaincre des gens que vous pouvez faire quelque chose de plus, à la fois de plus symbolique et puis de plus.
Et surtout de plus personnel.
Significatif.
Comme disait.
Elisa.
Elisa, merci. Les autres n'ont pas forcément besoin de savoir. Ouais. J'ai un exemple en tête qui va vous surprendre. Une dame d'une soixantaine d'années qui a perdu son papa, ne sachant pas du tout. Comment représenter ça? Donc, elle arrive avec un cœur, avec des fleurs autour. Je lui ai demandé de me parler de son papa, des moments qu'elle a passés avec son papa. Et on en est arrivé à un dessin. Donc, je vous raccourcis l'histoire. Petit escargot sur un crayon à bois de menuisier. Vous savez, les crayons rouges. Donc, on a pris un petit stylo, un petit escargot. Et j'en ai fait un dessin. Et elle a actuellement ce tatouage sur son avant-bras. Et ça représente son papa qui était menuisier. Et une histoire qui lui tient à cœur et qu'elle m'a... Quand elle m'en a parlé, je sentais que c'était ça qu'il fallait mettre en place. Elle partait souvent à la chasse aux escargots avec son papa. On a fait le lien des deux. Son histoire avec son papa, qui ne parle pas forcément aux autres, mais à elle, oui.
Bien sûr. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.